puis on est heureux de vous revoir avec ce virus qui nous a bien embêté quand même, puis qui s'en va pour le moment un peu derrière nous. La plupart sont vaccinés parmi vous, là, oui, non? Hein? Non? La plupart sont vaccinés? Bon, seulement, dire à Dieu, je suis vacciné, mon épouse aussi, je suis vaccinateur en même temps. Et le Seigneur peut donner très bien à quelqu'un, de façon personnelle, intime, la conviction de ne pas se faire vacciner. Mais ça, c'est un secret entre lui, quelque chose de personnel que Dieu donne, pour des raisons que nous, on ne connaît pas forcément. En dehors de ça, il est logique de se faire vacciner. Parce qu'on se protège, bien entendu, et on protège les autres. Et on fait en même temps une œuvre évangélique, parce qu'on protège les autres. On leur rend service, c'est une œuvre d'amour, hein, pas oublier ça. Que non seulement nous, mais ceux qu'on va rencontrer, on les protège. Et c'est réciproque. La vaccination protège aussi les autres. Donc en dehors d'une conviction simple, personnelle et intime, on ne peut pas faire autrement. Puis quand on a cette conviction, on peut aussi se garder une espèce d'ardeur militante pour être contre cette vaccination. Il faut pas l'être. Je vous donne un petit exemple qui m'a beaucoup parlé. Je vaccine dans une EHPAD, et puis il y a une dame qui a tout à fait ses facultés, donc c'est ses enfants qui avaient la tutelle. Et les enfants n'ont pas voulu qu'elle soit vaccinée. Et il y a 3 semaines, 1 mois, on a appris que cette dame avait reçu le Covid, dont elle était en train probablement de mourir, et que ce Covid lui avait été transmis par ses enfants, qui étaient les seuls à lui rendre visite, qui ont été testés positifs. Le personnel était vacciné, et la seule visite qu'elle recevait était celle de ses enfants. Alors on ne pourrait pas être à la place de ses enfants. Hein, donc réfléchissons bien quand nous avons cette position, en sachant que on se protège, on protège les autres, et puis on pratique un acte d'amour pour les autres. Voilà, je voudrais dire avec vous quelques versets dans l'évangile de Jean, dans Jean 19, versets 1 à 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu « Gabata ». C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent « Hôte, hôte, crucifie-le » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César !» Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus est fait crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Voilà ce passage qu'on connaît tous bien. Imaginons un petit peu, nous on connaît la suite. Elle est connue, hein, cette après cette souffrance, cette passion, cette résurrection. Mais les disciples ne la connaissaient pas. Ils venaient d'abandonner, de prendre la fuite, et ils l'ont vu, ils ont assisté à ce spectacle. Un désastre. 15 jours avant, le même homme avait effectué un des miracles, le miracle probablement le plus extraordinaire qui ait jamais été fait. C'était quoi? La résurrection de Lazare. Il a non seulement ressuscité un homme mort, mais un homme qui était déjà en état de décomposition. Personne n'avait fait ça avant lui, peut-être que personne ne l'a fait après. Et 10 jours après, qu'est-ce qui se passe? Il est là. Tout le monde l'a abandonné, tout le monde a pris la fuite. Un disciple même l'a renié publiquement. Tout le monde s'est sauvé et il est prisonnier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on lui fait un manteau de pourpre avec une couronne de roi. Et on se met à genoux devant lui, non pas pour l'adorer, mais pour se moquer de lui. Rendez compte, celui qui a accompli tant de miracles, dont la parole était unique, extraordinaire, l'état où il se retrouve. Est-ce que les disciples pouvaient penser autrement? Ils n'avaient pas, les disciples. Il y a une étape que nous avons connue, qui est quoi? C'est de la résurrection. Donc on peut comprendre. Les disciples ne peuvent pas comprendre ça. Il va être fouetté. Vous savez que le fouet, contrairement, ce n'est pas un martinet comme on le fait pour les enfants. Hein. Le fouet, c'est un instrument de torture terrible. Il y avait des boules de plomb qui étaient accrochées aux lanières de cuir. Et le crucifié, enfin le supplicié, recevait 30 ou 40 coups de fouet avec une perte de sang. On notait qu'en général, un supplicié qui subissait le fouet perdait entre 2 et 3 litres de sang. 2 et 3 litres. Qui explique après que le Seigneur Jésus, comme les autres crucifiés, ne pouvait pas porter sa croix. On ne lui a pas fait une fleur en lui disant qu'il ne portera pas. Non, non, c'était une obligation, il aurait été impossible physiquement, humainement, qu'il la porte jusqu'à Golgotha. Donc on a obligé un passant, Simon Cyrène, à la prendre pour lui. Il aurait été impossible qu'il fasse autrement. Imaginez que cet homme, qui a marché pendant 3 ans, dans la plupart des villages de Galilée, d'Israël, qui a porté une parole merveilleuse, maintenant, dans cette position, humilié, complètement dévasté, et qui va monter, qui n'est même plus capable de porter l'instrument de son sacrifice. Imaginons la scène et puis la douleur de ses disciples. Elle est normale, on était de façon identique à eux. Mais il y a un passage que nous avons, que non pas. C'est ce passage de la résurrection qui vient après. Vous ne pouvez pas l'inventer puisqu'elle n'avait pas eu lieu encore. Mais nous, elle est vivante pour nous. Alors si on regarde maintenant le même passage, on peut le relire et voir les choses totalement autrement. Et voir un autre royaume. Vous savez, maintenant on est dans un royaume actuel, celui de la terre, celui des hommes, celui du diable, qui entraîne une vision. Est-ce qu'elle est pour nous? Probablement pas, sinon nous ne pourrons pas résister. Mais il y a une autre vision en lisant exactement les mêmes versets. Moi, je sais que quand je dis, je l'amène dehors, enfin, il le revêtir d'un manteau de pourpre et il lui donne des soufflets avec une couronne d'épines. Personnellement, quand je lis ce passage, je trouve que c'est un des passages les plus glorieux de toute la Bible. Il a une couronne, il a un manteau de pourpre, une couronne d'épines, mais il est humilié par les hommes, mais quand on voit derrière quelqu'un d'autre, c'est un manteau de gloire. Moi, je vois, je ne suis pas du tout attristé en voyant ça, mais quand je vois ce Dieu qui a pris notre condition, notre humiliation, qui a eu l'humilité de la prendre pour nous avec un manteau de pourpre, ce manteau, Dieu a permis qu'il le prenne. Il a eu quand même cette couronne. Je ne suis pas du tout. J'ai une joie, c'est inexplicable. Mais j'ai une joie dans mon cœur qui est indicible quand je lis ce passage-là. Alors que humainement, c'est quelque chose de terrible, totalement humiliant. Ensuite, les Juifs lui dirent, nous avons une loi et selon notre roi, il doit mourir. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur l'augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce que c'est à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Voilà la réponse du Seigneur Jésus. Il va être crucifié, il va mourir. « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Celui qui va être tué injustement, garde, vous savez ce qui est le plus important, ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, les hommes se l'arrachent les uns les autres pendant 10 minutes, pendant quelques années. Ce n'est pas le pouvoir qui importe, c'est l'autorité. Et l'autorité ne vient que de Dieu. Le Seigneur Jésus, couronné d'épines avec son manteau de pourpre, avait gardé sa totale autorité. Tu n'aurais sous moi aucun pouvoir si ce n'était pas été donné d'en haut. Et à ce moment-là, la frayeur de Pilate augmente. Vous voyez, il ne se trouve pas en face d'un homme. Qu'est-ce qu'il va faire après? Pilate va dire des mots dont il n'avait pas conscience. Là, dites aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent, « Hôte, hôte, crucifie !» Pilate leur dit, « Crucifierai votre roi !» C'est pas étonnant d'entendre Pilate dire ça? Crucifierai votre roi? Il n'en sait rien. Non seulement il n'en sait rien, mais les Juifs le renient. Dieu lui a ordonné de dire ça. Ces paroles dans la bouche de Pilate sont la volonté de Dieu. Crucifierai votre roi. En disant ça, Pilate ne va pas se faire des amis. Au contraire. Crucifierai votre roi. Nous n'avons de roi que César. Mais Pilate déclare que Jésus est le roi des Juifs. Il ne rendra pas d'amis. Au fond de lui-même, il s'en moque. Mais quelqu'un qui a une autorité lui a ordonné de dire ça. Alors quand on voit de cette façon ce texte, on voit tout à fait autre chose. On ne voit plus un homme qui va mourir, qui a été dévasté, qui a perdu une partie de son sang, mais quelqu'un qui n'a jamais, à aucun moment, perdu sa véritable autorité. Jamais. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand on réfléchit, ça n'a pas beaucoup de sens. Pilate n'est pas concerné par tout ça. Il aurait pu très bien le crucifier avec les deux autres, et puis c'est tout. Mais il a décidé, on ne sait pas pourquoi, il ne le sait pas lui-même, de mettre une inscription « Jésus-Christ, roi des Juifs ». Il ne le connaissait pas avant. 2 heures avant, il ne le connaissait pas. Pourquoi il a écrit ça? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Sans qu'il le sache, Dieu lui a ordonné de marquer ça. Parce que Jésus est le roi des Juifs depuis 2000 ans. Plus de 2000 ans. Il est le roi des Juifs. Ils ne l'ont pas reconnu pour la plupart, mais il est le roi des Juifs. Et il sera le roi des Juifs. Quand Dieu a dit une chose, il l'a dit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Pilate l'a dit de la part de Dieu. Et bien il a écrit non seulement en hébreu, il a fait écrire en quoi? En grec et en latin. Pourquoi? Pour que toutes les langues de la terre qui étaient parlées soient concernées. Jésus est le roi de tous ceux qui croient en lui. Il est non seulement le roi des Juifs, mais de tous ceux, le nôtre roi. À nous, une fois pour toutes. Vous vous rendez compte comme ce texte est totalement différent quand on le voit, avec un regard différent, avec une vision différente. Ou bien on choisit le royaume des hommes ou le royaume de Dieu. Et on voit à ce moment-là quelqu'un d'autre qui n'a jamais cessé de régner. En hébreu, en grec et en latin. Si on avait demandé à Pilate pourquoi il disait ça, il aurait été incapable de l'expliquer. Incapable. D'autant plus qu'il n'était pas concerné par ça. Et que lui-même, semble-t-il, il n'est pas changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lavé les mains, puis il est parti. Mais il accomplit ce que Dieu voulait à travers lui, à un moment donné de son histoire à lui, dont on ne sait pas la suite. Il ne semble pas qu'il soit converti. On le saura un jour. Après, il est devenu ami d'Hérode. Mais Dieu utilise ses propres ennemis pour accomplir ce qu'il veut. Même pour mettre dans leur bouche ce qu'il veut. Pilate a dit de la part de Dieu ce que Dieu lui a ordonné de dire. Ça nous montre que le royaume qui nous concerne n'est pas celui qu'on pense, celui des hommes. On peut lire dans Luc 19 comment le Seigneur se comporte. Puis après on verra un petit peu notre application pour la vie de tous les jours. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il rentre à Jérusalem dans une pleine gloire. Hein. Vous rendez compte, une semaine avant. Hein. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi, le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Voilà, c'est une semaine avant. Alors à ce moment-là, la foule est en délire. C'est merveilleux, le Seigneur Jésus, il l'acclame avec eux. Une semaine après, ils vont s'enfuir, ils vont le laisser complètement. Ils sont sincères, là. Totalement sincères. Les disciples étaient totalement sincères quand ils l'ont suivi. Ils ont été jusqu'au bout de leur force. Mais ils l'ont accompagné jusqu'au bout de leur force. C'est pour ça que le Seigneur leur a dit, « Vous qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, je réserve pour vous le royaume des cieux. » Dieu nous connaît. Et là, cette foule était parfaitement sincère. Mais avec des convictions qui étaient humaines. Hein. Et le Seigneur lui montre quelque chose de très particulier. Quand un roi, un empereur romain rentrait à Rome, il rentrait sur un destrier. C'est un grand cheval, il avait même un char avec 4, 6 ou 8 chevaux qui étaient devant. Il mettait sur son char comme bénure. Et puis derrière, il y avait ses soldats. Et tout à la fin, il y avait les esclaves qu'on tirait avec des cordes. Voilà. Puis voilà le roi que les Juifs attendaient. Ils voulaient un roi comme ça. Qui rentrait à Jérusalem, un roi qui les délivre. Mais des Romains. C'était leur vision, les disciples aussi. Ils attendaient leur roi qui allait délivrer de la servitude des Romains qui était dure. C'était leur besoin, leur désir, leur souhait, ça leur suffisait. Et là, ils ont dû comprendre après. Imaginez que le Seigneur, celui qui vient de ressusciter Lazare, deux jours avant, il a ressuscité Lazare. Devant des témoins. Et les témoins qui l'ont vu, qui sont remis à Jérusalem. Quelle joie ça devait être pour Marthe, Marie, puis pour tous ceux qui avaient un cœur droit, de voir ce miracle incompréhensible, médicalement absolument, défiant toutes les lois de la biologie. Et comment il vient, le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il a pris un destrier? Est-ce qu'il a pris un char? Non. Il n'a même pas pris une ânesse. Il a pris un ânon. Vous voyez, l'ânon, c'est pas grand. Imaginez ce roi, on l'a mis sur des couvertures sur l'ânon, il s'est assis. Il avait probablement les pieds qui traînaient par terre. Un ânon, c'est pas grand. Et il est entré comme ça. Mais avant, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Quand vous serez entrés dans la ville, vous irez à tel endroit, vous trouverez un ânon qui sera attaché là, avec une ânesse. Si on vous demande pourquoi l'amener, dites le Seigneur en a besoin. Voyez, l'autorité, elle est là. Elle est là dans l'orgueil, dans un empereur, pas du tout. Dans un roi qui vient sur un ânon, qui dit doucement, dites le Seigneur en a besoin, et on vous laissera aller. Elle n'est pas là, l'autorité. Elle est douce. Mais rien ne peut s'y opposer. Quand Dieu a dit une chose, rien ne s'y oppose. Ils ont été dans la ville, dans la rue, ils ont trouvé l'ânesse, l'ânon. Pourquoi le prenez-vous? Le Seigneur en a besoin. Plus un mot. Pilate a proclamé que Jésus était le roi des Juifs. Plus un mot. Vous vous rendez compte? Comment le Seigneur se comporte? Et comment pour nous aussi? Il nous montre le chemin. Regardez ce royaume-là. Est-ce qu'il s'impose par la force? Non. Il est réservé à ceux qui croient, qui eux-mêmes ouvrent la porte. Il y a deux royaumes, vous savez, le royaume des hommes et le royaume de Dieu, qui n'a pas changé. Il est dit dans la parole, vous pouvez le lire dans le psaume 98, dans 97 et 99, l'Éternel règne. C'est comme ça. Est-ce que vous le voyez régner l'Éternel aujourd'hui? Moi, je ne le vois pas. Vous voyez régner dans les conflits de plus en plus terribles, les guerres atroces, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, des milliers de personnes déportées, des enfants tués, des migrants qui traversent la Méditerranée toutes les 10 minutes, et que personne ne veut, dont personne ne veut. Vous voyez Dieu régner là? Non. Dans les superpuissances qui s'affrontent pour être les premiers au point de vue économique à imposer leur vie aux autres, entre la Chine, les États-Unis, la Russie. C'est effrayant. Je ne vois pas du règne. Et pourtant, il est marqué dans la parole, au psaume 98 et 99, 97 et 99, l'Éternel règne. Et même au psaume 99, l'Éternel règne, les peuples tremblent. Ça ne paraît pas évident. Et pourtant, l'Éternel règne. Vous savez pourquoi il règne? Alors là, vous avez la réponse, vous pouvez la donner. Pourquoi l'Éternel règne? C'est ça le point central pour chacun de nous. Pour moi, le premier. Pourquoi l'Éternel règne? Pourquoi? Vous avez une réponse? Pourquoi il règne? C'est le contraire. Pourquoi il règne? Pourquoi? Alors ça, c'est la doit nous suffire pour toute notre vie. Pourquoi il règne? Eh bien, parce qu'il l'a dit. C'est tout. Il l'a dit. On voit le contraire? Tant pis. Il l'a dit. Alors, voyez, si la parole, elle a cet impact sur nos vies, sur ma vie, tout change. L'Éternel l'a dit, il l'a dit. Je ne vois pas. Il m'a dit, ne cherche pas à comprendre. Si tu cherches à comprendre pour croire, tu ne croiras jamais. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois! Je t'expliquerai après. L'Éternel règne. C'est tout. Alors là, tout change. Il a dit, Seigneur, ben, je verrai s'accomplir. On ne le voit pas pour de nos yeux. On voit le royaume du monde qui est livré à Satan, mais c'est marqué dans la parole. Hein. Mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, Pilate a été obligé, de la part de Dieu, de dire. Voilà le roi des Juifs. Que ça lui plaise ou non. L'Éternel règne. Si nous prenons la parole au mot, elle va changer notre vie, complètement. Et alors le gros problème, souvent, c'est qu'on a une vénération pour la parole, une admiration, et puis après on referme le livre, puis on repart avec nos pensées, nos livres. Ce ne sont pas nos pensées sur la parole qui comptent, mais ce que la parole pense de nous. Appliquons-la. Vous voyez ? Il y a des exemples tout simples, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il ne nous demande pas de l'informer, nos soucis. Il les connaît avant même qu'on lui ait dit. Mais de nous décharger, de la mettre en application, en pratique. En pratique. Seigneur, maintenant, j'ai du mal, mais aide-moi à me décharger de ça. Autrement, on n'obéit pas. Si vous lisez l'Épître aux Romains, vous verrez que l'Épître aux Romains commence, au bout de quelques versets, par ce verset. Amener les païens à l'obéissance de la foi. Et l'Épître aux Romains se referme sur le même verset. D'amener les nations et les païens à l'obéissance de la foi. La foi est une obéissance. Je le dis pour moi, est une obéissance à ce que je crois. S'il n'obéit pas, je ne crois pas. Celui qui obéit, c'est celui-là qui croit, disait un pasteur. Et c'est vrai. Celui qui obéit, c'est celui qui croit. Sinon, on la consulte, on l'admire, on la vénère, et c'est tout, et le sang de rien. Et c'est le fruit de cette parole dans notre vie qui montre si on l'a cru. en croyant là. Mettons dans l'application. C'est ça le royaume de Dieu. J'ai toujours été surpris de voir cet épisode que vous connaissez dans Luc 17, du riche et Lazare. Vous voyez ? Vous connaissez hein, cette parabole. Alors, le riche, il est mort, Lazare aussi. Lazare qui était réellement un pauvre homme qui vivait dans la rue, à la porte de Lazare, est arrivé au ciel avec le riche aussi. Lazare était dans la main d'Abraham et le riche était loin. Et le riche, à ce moment-là, a eu une parole qui était bonne. Il a dit, écoute Seigneur, si vraiment, envoie Lazare. Envoie le dire à mes frères, ce qu'il en est, pour ne pas qu'ils viennent dans le même endroit que moi. De sa part, c'était déjà gentil, puisqu'il avait passé toute sa vie à ne penser qu'à lui. Maintenant, il pensait enfin à ses frères. C'était un peu tard, mais il le faisait quand même. Et Seigneur lui a dit, non, Lazare. Même si quelqu'un des morts revenait sur terre, cela ne suffirait pas à ce que les gens croient. Ça m'a toujours surpris, ça. Imaginez quelqu'un qui vient des morts, qui dit, écoutez, là, vraiment, ce que dit Lazare est vrai, hein, surtout pas comme ça, surtout pas, le paradis est merveilleux, l'enfer c'est terrible, alors surtout, changez votre vie, et après la personne repartirait au paradis. Le Seigneur a dit non, s'il ne croit pas Moïse et les prophètes, quelqu'un ressusciterait les morts, il ne croirait pas plus. Vous savez pourquoi ? Parce que ce qu'on a, un témoignage visuel, humain qu'on reçoit, il est vivant pendant quelques jours, mais après ça s'efface. Mais le Seigneur Jésus, vous vous rendez compte, il est écrit dans Matthieu, chapitre 28, quelques-uns qui l'ont vu pourtant ressusciter, quelques-uns eurent des doutes. C'est pas très glorieux. Et au bout de quelques mois, quelques années, après son retour au ciel, les conflits sont même revenus. Parce que le cœur humain, il a du mal à se souvenir de ce qu'il a vécu visuellement. Il nous connaît le Seigneur. Il sait très bien que les choses les plus extraordinaires s'effacent quand elles ne se renouvellent pas. On aurait besoin d'avoir des apparitions toutes les 3 semaines. Vous lui dites non. Par contre, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Or, si nous la croyons, elle va nous porter jusqu'au bout. Dans ces moments difficiles qui ne sont pas derrière nous, les moments difficiles, ne croyez pas, ils sont devant nous. Si nous n'avons pas cette foi qui applique la parole à la lettre, on ne pourra faire que sombrer. C'est la parole qui nous porte. Si on lui laisse le droit de nous porter, on n'avait pas l'application à la lettre. Dieu est honoré quand on prend à la lettre ce qu'il nous dit. À la lettre. Seigneur, tu m'as dit, je le fais. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Prions. Seigneur, merci que tu es un Dieu saint, qui ne s'adresse pas à nos têtes, mais à nos cœurs. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu nous as transportés, nous rappelé tout à l'heure dans Éphésiens, dans ton royaume, qui est un royaume qui triomphe de tout, qui comprend tout, si nous te laissons éclairer nos cœurs. Aide-nous à ne pas demeurer ou revenir dans le royaume des hommes qui ont le pouvoir et qui n'auront jamais l'autorité. Tu as cette autorité dans l'humilité, dans l'humiliation, mais personne ne peut te l'enlever. Aide-nous à demeurer en toi, avec toi, à faire le choix de te suivre toi, non pas nos pensées, nos raisonnements obscurs, mais à te suivre toi. Celui que tu as donné comme chef Seigneur de notre vie et qui nous dit, veux-tu bien que je marche devant toi, que je te conduise, là dans ce que j'ai prévu, dans cette victoire que j'ai prévue, dans cette résurrection que j'ai prévue, dans cette rencontre que j'ai prévue avec toi. Seigneur, merci de nous dire que tu reviens bientôt. Et nous à tenir ferme avec la parole que tu nous as donnée et qui peut et qui veut triompher de tout, de nous et de tout. Amen.